Bonjour à tous. Dans la grande table des idées aujourd'hui, un an après l'affaire Weinstein, quelles leçons tirées de cet événement? Le corps féminin a-t-il fini sa révolution? Pour notre invité, cette libération s'est arrêtée au seuil de l'intime. Et c'est justement ce combat, ce nouveau combat, ce travail de fond qu'il va falloir approfondir pour l'égalité. Auteur de Le corps des femmes, la politologue Camille Froide-Vaumetry nous rejoindra à partir de 12h55. Mais d'abord, du théâtre engagé avec notre invité, le metteur en scène Milo Rao, directeur du NT Ghent en Belgique, où il vient de présenter L'agneau mystique, inspiré du polyptyque des frères Van Heck. En parallèle, il est en France pour présenter sa nouvelle création. Créée à Bruxelles, présentée à Avignon cet été, la reprise de Milo Rao est à voir au Théâtre des Amandiers à Nanterre jusqu'au 5 octobre. Lui et ses comédiens y interrogent le principe de représentation, les possibles du réel mis en scène. À écouter tout de suite sur France Culture.
La grande table. Olivia Gesbert.
C'est un projet pensé sur le long terme, sur 10 ans peut-être, en plusieurs parties. Ici, l'acte 1 de cette histoire du théâtre, pensée comme une fresque dans le temps et dans l'espace, à la manière peut-être d'une histoire des États-Unis, à la manière aussi d'une histoire du cinéma, version Jean-Luc Godard. Bonjour Milo Rao.
Bonjour.
Si vous deviez, vous, jouer le monologue d'un metteur en scène, incarner votre propre rôle, à quoi cela ressemblerait?
Alors, difficile à dire, je crois que je donnerais ma parole à d'autres. Je crois que, par exemple, comme dans cette série Histoire du théâtre, c'est moi qui fais la première partie, mais après, la deuxième c'est Faustine Akula, la troisième c'est Angelica Liddell, etc. Alors, je donne à d'autres la voix sur scène. Aussi dans L'agneau mystique, j'invite une vingtaine de citoyennes et de citoyens sur scène de représenter la ville. Alors je ne crois pas que je suis celui qui aura le grand monologue, je suis plutôt celui qui porte la parole à d'autres.
Dans l'ouverture de la reprise, l'un des acteurs dit « Les metteurs en scène qui hurlent ne mettent pas en scène, ils jouent les metteurs en scène ».
C'est ça.
C'est ça, c'est la caricature du metteur en scène.
C'est ça, c'est un danger toujours pour un metteur en scène. On est sous stress toujours. On doit, quelquefois dans l'opéra par exemple, dans de grandes maisons, on doit travailler avec 50 personnes en même temps. Alors, on doit vraiment faire attention de ne pas être stressé. Et c'est pour ça aussi que je me suis dit, moi je veux aussi être directeur artistique d'une structure, maintenant le NT Ghent, le théâtre de Grand, avec un grand ensemble, plusieurs maisons, pour peut-être montrer comment on peut travailler autrement, sans ces hiérarchies, sans hurler en fait.
Vous employez parfois un mot pour définir votre perception du métier de metteur en scène. Vous dites un bon metteur en scène, c'est un sténographe.
Un humble sténographe ou un bon auteur. Non, en fait, moi, l'idée d'une autorité collective, d'une compagnie qui travaille, d'acteurs et d'actrices, surtout qui deviennent des auteurs. Moi, je développe les pièces toujours avec tout le monde inclus, aussi avec les techniciens. Alors, ça prend un peu plus de temps, on fait des recherches, on voyage ensemble, on sort du théâtre aussi. Et jusqu'à la dernière journée, par exemple pour L'agneau mystique, 3 jours avant la première, j'avais aucune idée de ce que ça va donner. J'ai vu le premier filage 2 jours avant la première, ou 1 jour avant la première, j'ai encore tout changé, même le matin. Alors on est en production, c'est pas qu'on fait des produits avec des professionnels et moi je suis le metteur en scène. Évidemment à des moments je donne des consignes, je veux, parce que je regarde ça et je veux que ça se passe comme ça ou comme ça. Mais j'ai vraiment l'envie d'une création collective dans le théâtre. Parce que pourquoi on parlerait d'un ensemble, d'un travail de théâtre si ça se passe pas vraiment sur scène ensemble?
Et cette question du jeu, vous la posez d'entrée de jeu dans la reprise. Johan, seul en scène, interroge, à partir de quand devenez-vous le personnage comme acteur? À quel moment commence la tragédie? Le corps de l'acteur, c'est ce que vous tentez aussi de démontrer, qu'il soit professionnel ou non professionnel, Milo Rao, ne doit pas faire obstacle. L'acteur, si vous, le metteur en scène, vous êtes un sténographe, il est quoi lui? Un émetteur? Un transmetteur?
Il est un transmetteur, en fait, c'est différent d'acteur en acteur, chacun a sa théorie. En fait, Johan Lesen, il explique sa théorie. Lui, il dit un peu comme moi je vois le metteur en scène, il dit c'est un livreur de pizza. Alors il y a un message et il y a un public et c'est le moment où on livre ce message et l'acteur lui-même ne c'est pas lui de quoi il s'agit, c'est pas du texte non plus qu'il s'agit, c'est en fait de cette rencontre qu'il s'agit dans le théâtre. Et pour moi l'idée de...
Voilà, et pour reprendre l'exemple du livreur de pizza, quand on se fait livrer une pizza, dit-il, l'important c'est pas le livreur, c'est la pizza.
C'est la pizza, c'est la pizza. après, j'ai d'autres acteurs sur scène, Sébastien Foucault, par exemple, qui dirait l'inverse. Mais en fait, c'est pas lui qui fait le monologue de début. Mais la question, quand est-ce qu'une tragédie commence, quand est-ce qu'on devient une figure dans la tragédie, c'est peut-être la question principale du théâtre. À quel moment une histoire commence? À quel moment quelque chose de tragique commence? Pourquoi est-ce que Oedipe rencontre son père, le tue par hasard, en fait, couche avec sa mère par hasard? Pourquoi ça se passe? Et quelles sont les conséquences?
Faire la synthèse entre les vraies vies de ceux qui jouent et les personnages qu'ils représentent. Repartir du vécu de vos acteurs, qu'ils soient professionnels ou non professionnels. Telle est votre démarche, que l'on comprend aussi très rapidement à travers la reprise, cette première histoire du théâtre que vous nous racontez en ce moment sur la scène des Amandiers à Nanterre, comme dans L'Agneau mystique aussi, votre nouvelle création présentée en ce moment au NT Ghent en Belgique, inspirée de cette œuvre du Moyen-Âge exposée dans la cathédrale Saint-Bavon de Gand, où vous aviez pensé à Fatima Ezzarouni, anversoise, qui a perdu son fils en Syrie, partie rejoindre les rangs de Daesh pour incarner Marie, la Marie. Elle avait en elle la souffrance d'une mère. Elle pouvait peut-être la transmettre, puisqu'on parlait de transmetteur tout à l'heure sur scène. Mais évidemment, ça a fait du bruit, Milo Rao. Elle a dû se retirer, je crois, du projet sous la pression, cette femme-là.
Elle s'est retirée deux jours après la première. On a joué la première et la deuxième représentation vendredi, samedi avec Fatima. Puis la pression est devenue trop grande. Il y a une scène de sexe sur scène. À ce moment-là, elle n'est pas sur scène. Adam et Ève, ils couchent avec... Il y a des enfants qui s'entourent, c'est une scène de tendresse, mais c'est la communauté musulmane qui a dit à un moment, mais c'est pas possible que tu es sur scène, que tu parles de ton fils qui est mort, qui était chez Daesh, et puis il y a tout ça. Alors c'était un grand scandale, et on a discuté beaucoup alors à partir de ce cas dans les médias, et aussi dans le théâtre, de qu'est-ce qui peut être sur scène. Est-ce qu'une mère d'un djihadiste peut être la mère de Jésus? À un moment, elle dit une phrase très belle.
Dans une Belgique qui a aussi été traumatisée par les attentats.
Par l'attentat de Saventem, il y a 2 ans. Et elle dit une très belle phrase, et c'est peut-être là où il y a la transformation sur scène quand même dans le humain, de questions qui sont plutôt scandaleuses dans les médias, où elle dit... je suis très honoré de jouer la mère de Jésus parce que la Sainte Marie, elle a aussi eu des problèmes avec son fils, qui était aussi un extrémiste à son époque, un terroriste presque. Alors c'est quelque chose qui est, on peut faire des parallèles, on peut humaniser les choses qui nous semblent scandaleuses à première vue.
Et vous le percevez comment quand vous avez cette intention, cette envie? Vous le vivez comme une transgression pour faire bouger aussi les mentalités, permettre de prendre conscience? Vous voyez peut-être la provocation que certains vont pouvoir percevoir? Il y a cette envie de faire tomber les murs, les frontières?
Il y a toujours une transgression, mais une transgression avec un but utopique et peut-être humain, tendre, en fait. On a fait un tribunal populaire au Congo de l'Est, on a joué l'affaire du trou, alors la question de la pédophilie avec des enfants maintenant, on a la nudité, le sexe, on tue un agneau, on a plein de rituels collectifs sur scène dans cette pièce, agneau mystique, en fait, qu'on répète ce qu'on voit dans cette image d'il y a 600 années des frères Faneik. Mais pour moi, ce qui campe, c'est toujours la transcendance, c'est ce que ça donne à la communauté, ce que se montre dans, on pourrait dire, dans la solidarité des gens sur scène. Pour moi, c'est très beau d'avoir, par exemple, des catholiques, des protestants, cette mère d'un djihadiste, des enfants, des athées, etc. sur scène, en représentant cette peinture. Alors, c'est pour moi, ça campe qu'il y a 25 personnes et c'est... Oui, c'est pour moi, c'est très touchant, je suis très triste, mais c'est aussi symbolique que Fatima, à un moment, a dû sortir, que le théâtre n'était pas plus fort que la réalité, en fait.
Il y a chez vous, Milo Rao, une frontière qu'on appelle la Röstigrenze entre les Suisses allemands et les Suisses francophones. Frontière de la langue, frontière des cultures aussi, une frontière qu'on peut retrouver en Belgique. Il y a cette envie de faire... J'y reviens, tomber les frontières, mais où, des moments où vous vous rendez compte que les cultures, la manière dont on a de s'emparer de ces cultures et de vouloir s'y raccrocher sont plus fortes aussi que ce qui pourrait nous rassembler.
Oui, c'est vrai, il y a un identitarisme qui est grandissant en Europe, partout en fait, pas seulement, je crois, en Suisse, dans les pays fédéraux multilingues, mais aussi dans d'autres pays. Je crois même que la Suisse a beaucoup plus d'expérience d'être ensemble, même si on n'a pas une culture unique. Et je crois que la question de la langue est beaucoup plus brûlante en France qu'en Suisse. Alors c'est logique que je parle un peu français aussi, comme je montre ici, mais que je parle, en fait, je suis germanophone. Et j'ai retrouvé ça en Belgique, et en Belgique, c'est encore une autre histoire, c'est vraiment les Flamands qui sont dans les séparations, dans le séparatisme depuis longtemps. Alors là, tu as vraiment, je ne crois pas que ça va tenir encore une dizaine d'années, alors j'ai peur pour la Belgique.
Comment jouer, comment être acteur sur scène, Milorao? Quel engagement pour l'artiste, quelle parole va-t-il incarner sur scène? Jouer l'esprit du père d'Hamlet, un mort qui parle, ça c'est du théâtre, dit votre premier acteur en ouverture. Pour raconter cette histoire du théâtre, vous repartez d'un fait divers, le meurtre homophobe d'Issane Jarfi à Liège, ville en déclin après la fermeture de ses hauts fourneaux en 2012. C'est ce crime et son procès qu'une pièce à venir va raconter, comme un film dans le film, vous récitez, racontez le processus de création de cette pièce-là au Théâtre de Liège. Et donc, ça commence par le casting des comédiens, défilent Tom, Fabian, Suzy, extrait du dialogue entre Fabian et Sarah.
Fabian, t'as déjà fait du théâtre?
Quelques fois, des petits rôles.
Et pourquoi ça t'intéresse?
Ouais, il y a une liberté là-dedans. On peut faire des choses qu'on ne ferait pas dans la vraie vie.
Et t'as déjà embrassé quelqu'un sur scène?
Une fois.
Tu peux m'embrasser?
Ouais.
Et frapper? T'as déjà frappé quelqu'un sur scène?
Non.
Tu peux me frapper?
Toi?
Oui.
Une petite gifle.
Plus fort.
Dans la reprise Une histoire du théâtre, Milorao, vous racontez les coulisses et la fabrique de la création. Pourquoi avoir voulu montrer ce processus dès le départ, avec notamment le casting, parce que c'est là où ça commence?
Alors pour moi, tout ça est construit autour de la mort d'Issane Jarfi, alors d'une personne qui n'est plus là, d'une absence. Et je me demande comment est-ce que le théâtre peut produire une présence, en fait. Et c'est l'illusion. Alors c'est impossible que Hamlet parle avec le fantôme de son père, mais c'est notre besoin. Je crois c'est pour ça qu'on a créé la tragédie, qu'on a créé le théâtre, pour avoir, comme Heiner Müller dit, avoir un discours avec les morts. Et en fait, c'est la reconstruction de ce discours, à travers l'émotion, à travers l'illusion, que cette pièce fait. Alors on veut faire apparaître cette personne. C'est peut-être un monument pour Issane Jarfi, et c'est un questionnement aussi de la force du théâtre de même transgresser la mort, en fait, d'arriver à quelque part où il y a une présence de l'absent, où il y a une fête des morts et des vivants ensemble. Et c'est pour ça que on met tout ça en scène et on questionne tout ça pour montrer que dans la solidarité des professionnels et des non-professionnels, de ces six acteurs, quelque chose peut apparaître qui n'est malheureusement plus là.
Et pour raconter la vie de quelqu'un qui est mort, il faut aller enquêter, se documenter, chercher pour essayer d'être, alors comment dire, au plus vrai de ce qui a pu se passer, parce que ce crime d'Issane Jarfi, vous n'y étiez pas, personne n'y était. Vous avez entendu, pu collecter un certain nombre d'informations. Comment être aussi près ou le plus près possible du réel?
La réalité sur scène, c'est quelque chose qui est lié à la représentation. Alors c'est un grand travail de mise en scène. Alors on a travaillé pendant 6, 7, 8 semaines seulement sur scène. Mais avant, on a fait une recherche pour trouver une légitimité, mais aussi pour nous baser sur des témoignages. On a rencontré la famille, le père et la mère. Ils nous ont suivis pendant des mois, une demi-année. On a On est allé en prison pour rencontrer un meurtrier. On a travaillé très très profondément avec l'ex-copain d'Issan Sharfi qui était presque sur scène à la fin. Mais ce qui s'est pas fait, ce qui est peut-être aussi mieux qu'il n'est pas là. Ils sont venus voir aussi la pièce après, nous ont donné des retours qui étaient pour nous très intéressants. Et c'est comme ça qu'on continue. En fait, hier, Sarah, une des actrices qui vient de questionner Fabien dans votre extrait, elle a dit une très belle chose. Elle a dit, quand elle raconte ses témoignages sur scène, elle se rappelle toujours, en fait, ce qu'elle joue, c'est comment elle a écouté, par exemple, l'ex-copain ou le père, etc. C'est ça qu'elle joue. Elle joue pas le personnage, elle joue l'écoute. Et je trouve ça très beau, en fait.
C'est un grand travail de documentation que vous avez mené tous ensemble pour un théâtre dit parfois du documentaire, avec tous ces témoignages comme matière première, Milo Rao. C'est votre méthode de travail déjà expérimentée, mise en œuvre dans Five Easy Pieces sur l'affaire Dutroux, dans Le procès de Moscou sur les Pussy Riot, dans Les dernières heures de Ceausescu, dans Hate Radio aussi sur le génocide rwandais ou encore Le tribunal sur le Congo. Un répertoire extrêmement contemporain que celui que vous êtes en train de mettre en place. La reprise ou la répétition, le titre de la pièce est emprunté à Søren Kierkegaard. Quelle distinction faisait-il entre la reprise et la répétition ?
Pour Kierkegaard, pour moi aussi, la reconstitution n'est pas intéressante. Alors c'est la précision, c'est quelque chose pour les historiens, ce qui s'est vraiment passé ou pour la juridiction. Mais moi, je m'intéresse plutôt de trouver un sens existentiel dans ce qui s'est passé. Alors quelqu'un a été tué, et c'est une coïncidence, on s'est rencontrés devant un bar de nuit, quatre types qui ont trop bu, un jeune homosexuel, et ils l'ont torturé et tué sans aucune raison, sans aucune préméditation en fait. Alors on se demande pourquoi, et qu'est-ce que ça peut devenir pour les parents, pour l'ex-copain, pour nous, si on reprend ça. Alors si on essaie de donner un sens existentiel à la mort, et peut-être nous expliquer la mort à nous-mêmes. Ce nonsense, en fait, d'une vie qui finit, et chacun seul dans cette destinée. Et je trouve ça la question fondamentale de la tragédie, affronter à la mort, quel est le sens de la vie? Parce que ça va finir dans la douleur, dans la solitude, dans la mort. Alors quel est le sens? Pourquoi on est vivant? Et je crois que c'est ça qui est la question de la reprise que Kierkegaard pose dans un monde où Dieu est absent, ou peut-être la société même, ou un sens hegelien de l'histoire est absent, ou les grandes idéologies sont parties. Pourquoi on vit ?
On dit souvent d'ailleurs que l'histoire se répète, c'est une expression commune, hein, mais la faire se répéter sur scène, c'est autre chose. C'est une reconstitution qui passe par d'autres filtres, comme vous l'avez expérimenté là encore avec les derniers jours de Ceausescu. Comment reconstituer un fait réel ou ses représentations sur scène dans cette transposition ? Est-ce que la réalité peut y gagner du sens? Vous évoquez ce retour de la mémoire aussi sur scène, mais où est l'utopie là-dedans, dans cette reprise, dans cette répétition?
Je fais des pièces très différentes. Pour moi, une pièce comme, ou pas une pièce, ou un tribunal comme le tribunal sur le Congo, ça c'est une pièce vraiment utopique. Il n'y a pas un tribunal économique mondial, alors on le crée. Et c'est un espace utopique. Ici, l'utopie, pour moi, c'est dans l'empathie et dans la solidarité des gens qui sont là, aussi avec les spectateurs qui sont là et qui s'intéressent à ce cas très spécifique, à ce fait divers, en fait. C'est pas un grand héros, c'est vraiment une personne entre nous, un vivant comme nous qui est mort maintenant. Et on écoute à ça et on voit les professionnels et les non-professionnels jouer ensemble. Et pour moi, c'est vraiment utopique. C'est pour ça que je dis au moment où Fatima est partie, a dû partir de la pièce, on a mis maintenant juste la ligne sonore de sa voix là-dedans pour montrer son absence et peut-être aussi la défaite que cet espace utopique du théâtre a eu contre la réalité, les médias, la société.
La définition de la reprise par Kierkegaard, pour compléter ce que vous venez de nous dire, Milo Rao, reprise et ressouvenir sont un même mouvement, mais en direction opposée. Car ce dont on a ressouvenir a été, c'est une reprise en arrière, alors que la reprise proprement dite est un ressouvenir en avant. J'essaie de le dire très lentement. Est-ce qu'il faut que je répète, vous pensez, pour que toutes les idées reviennent bien? Reprise et ressouvenir sont un même mouvement, mais en direction opposée. Car ce dont on a ressouvenir a été, c'est une reprise en arrière, alors que la reprise proprement dite est un ressouvenir en avant. France Culture, on est en compagnie du metteur en scène Milo Rao à l'occasion de sa pièce La Reprise qui vient de débuter au Théâtre des Amandiers à Nanterre, où vous mettez en parallèle réflexion sur le théâtre et réflexion aussi sur la violence comme un retour aux sources de la tragédie. Sur cette question-là, je vous propose d'écouter l'historien Jean-Pierre Vernant, spécialiste des mythes sur la tragédie.
Lorsque les poètes, les aèdes, chantent le passé légendaire, ils le chantent, si je peux dire, comme on rapporte des événements auxquels on a assisté. Alors Achille dit ceci. Alors Ulysse eut l'idée, etc., etc. Donc c'est impersonnel. Tandis qu'au contraire, ce que vous allez avoir avec la tragédie, c'est quelque chose d'absolument nouveau. C'est que tous les personnages sont présents, on ne rapporte pas ce qu'ils ont fait, ce n'est pas le style indirect, c'est le style direct, ils parlent directement. Autrement dit, le fictif, plutôt ce qui ne peut plus exister, ces héros morts, on les a devant les yeux, sous le nez. Ils parlent comme s'ils étaient vivants. Et alors, à ce moment-là, le spectateur, j'ai raconté ça 36 fois, au début du cinéma, quand j'étais jeune gosse et que j'allais au cinéma à Provins, les spectateurs poussaient des hurlements devant l'écran et prévenaient la malheureuse vierge menacée par un traître. « Méfie-toi, il est dans le placard, etc. etc. » Ils n'avaient pas la conscience du fictif. La conscience du fictif, ça se construit. Nos petits-enfants qui sont tout le temps devant la télévision, ils ont une conscience du fictif ultra développée, c'est-à-dire que maintenant, hélas, ils ont l'idée que le réel, c'est comme du fictif. Or, c'est avec la tragédie que le fictif prend sa signification de quoi ? D'imitation, d'arriver à faire croire habilement par une technique que ce qui ne peut pas être est là devant vous.
C'est ça le théâtre, Milo Rao ?
Oui, c'est ça, c'est sûrement une partie du théâtre, mais il a bien expliqué, ce professeur, qu'on passe toujours à travers la fictionnalisation, la réalité n'existe pas, et moi je dirais, j'ajouterais même, la réalité n'existe pas en réalité, elle existe seulement sur scène, en art. En fait, on ne sait pas ce qui s'est passé avec Hissan Sharfi. Il n'y a aucune idée de l'atmosphère ou de l'atmosphère existentielle. Et seulement en passant à travers la fictionnalisation dans le théâtre, on arrive dans un réel touchant, un réel incompréhensible, un réel tragique. Et je trouve important que le tragique revienne sur nos scènes, en fait, après l'ironie, après l'adaptation, etc., tout ce qu'on fait maintenant, qu'on essaie de retrouver le questionnement de la mort et tout ça, de la solitude, de la solidarité sur scène.
Et de la solitude des corps et de la solitude de l'acteur. Vous mobilisez dans cette pièce l'exemple du pendu raconté par le dramaturge et metteur en scène Wajdi Mouawad, le directeur de la colline. Il est donc repris par vos comédiens sur scène.
Pour toi, ce serait quoi l'acte le plus radical sur un plateau de théâtre ?
J'ai lu un livre de Wajdi Mouawad dans lequel il y a une scène qui, pour moi, résume assez bien tout l'enjeu du théâtre. Il imagine un plateau vide, avec une chaise au milieu du plateau. Juste au-dessus, une corde qui pend avec un nœud coulant. Et il y a un personnage qui explique qu'il va monter sur la chaise, passer la corde autour de son cou, faire tomber la chaise et s'agripper à la corde pour ne pas s'étrangler. Il dit aussi qu'en répétition, il arrive à tenir environ une vingtaine de secondes à la corde. Le personnage monte sur la chaise, passe la corde autour de son cou, fait tomber la chaise. Soit quelqu'un vient le sauver et il survit, soit le public reste à sa place et le personnage meurt. L'acteur meurt.
La métaphore du pendu. Et après quoi, Milo Rao, une fois la représentation terminée, à quoi devrions-nous tous aspirer ?
Question difficile, c'est évidemment une réponse individuelle qu'il faut trouver. Mais moi, je trouve toujours que le théâtre, ce come together de, à un moment dit, peut-être 600 personnes, ça c'est la réponse en elle, en fait. C'est ce qu'on fait, c'est de venir ensemble pour écouter, pour parler, pour jouer, pour être dans le noir ou dans la lumière. C'est pour moi ça. La réponse, ou c'est peut-être là la solidarité, l'utopique du théâtre, qu'il y a cette place publique où on se rencontre pour faire ce rituel si on veut, de la tragédie, de parler de ce que nous, et de croire en quelque chose, comme le professeur a dit avec les enfants, de croire même si on sait que c'est pas vrai. Alors c'est quelque chose qui, c'est comme revenir sur un état d'âme ou d'intellect qui est enfantin, en fait, qu'on répète dans un rituel.
Vous dirigez aujourd'hui, Milo Rao, le NT Ghent, un lieu qui a une histoire, que vous allez peut-être transformer cet espace à votre manière. Ce sera justement ça, une place publique, c'est ce que vous souhaitez faire de ce lieu aussi?
Oui, en fait, un vrai théâtre de ville où tout le monde qui est dans la ville, toutes les questions qui sont dans la ville peuvent revenir sur scène. Parce que quand même, on a créé un théâtre bourgeois très limité à une certaine élite intellectuelle. Et ce que, où mon aspiration, c'est un vrai théâtre populaire intellectuel quand même, mais un théâtre populaire où il y a toutes les milieux d'une ville, de la société peuvent se représenter sur scène.
Une dernière voix à vous faire entendre, Milo Rao, dans le manifeste de Gand que vous avez rédigé et que l'on compare souvent au dogme 95 des cinéastes Lars von Trier et Thomas Vinterberg. Vous, vous êtes fixé 10 règles et parmi ces règles, il y a celle de partager la scène entre des acteurs professionnels et non professionnels, au moins 2 non professionnels. Écoutez ce que disait autour du dogme le réalisateur de Festen, Thomas Vinterberg.
For me, pour moi, the strict rules of dogma.
Les règles très strictes du dogme
ont créé,
c'est vrai, la plus grande liberté que j'ai eue en tant qu'artiste.
The tighter the rules of
plus les règles étaient
radio
strictes,
soit
par rapport à un show ou des tels,
the more you can unfold yourself.
Et plus on peut au contraire se déployer librement.
If you want to write a thesis,
si au contraire, on veut aller faire une thèse, par exemple, sur tous les arbres et toutes les forêts du monde, on a un problème. Mais si on décide d'écrire une thèse sur juste un petit insecte dans un arbre au nord du Danemark à une certaine période de l'année et dans des conditions météo spécifiques, eh bien, à ce moment-là, au contraire, vous parlerez de toutes les forêts du monde. Est-ce que je me fais comprendre?
I guess it's simpler to say a
je crois qu'il est plus simple de dire finalement qu'un peintre prend un cadre d'une certaine taille et puis des couleurs, et il commence à ce moment-là, et tout part de là. Donc artistiquement parlant, de créer des limitations pour soi-même est une façon de se libérer. Et je crois que c'est ce que les artistes ont fait de tout temps.
C'est déjà pas facile de faire du théâtre, Milo Rao. Pourquoi vous avez été assez fou comme Thomas Vinterberg pour ajouter de la contrainte à la contrainte?
Je voudrais dire qu'il a vraiment très très bien expliqué comment des contraintes peuvent nous libérer. Alors, et comme le dogme que lui et Lars ont fait il y a une vingtaine d'années, ce sont des contraintes techniques et pas esthétiques. Alors moi, je me suis demandé comment est-ce que je peux vraiment explicitement décrire le théâtre que je trouve va libérer le théâtre de la ville, le théâtre quand même un peu trop établi de l'Allemagne et de la France. Comment je dois écrire ça? Et si on suit ça, on se libère vraiment, on ouvre le théâtre vers le monde. Et une autre chose que je trouve très beau qu'il a dit, en fait, c'est très détaillé et on regarde très proche sur une art, alors l'art théâtral, pour décrire le monde dans cet art après. Et la dernière des choses, c'est que moi j'étais toujours dans des règles, dans des réglementations implicites. Quand tu vas en n'importe quel théâtre, dans n'importe quelle radio, il y a des règles, mais elles ne sont jamais explicites. Moi, je préfère qu'on mette un papier sur table, je peux réagir. C'est agir politiquement.
Bon, ici, il n'y a qu'une seule règle, c'est qu'il faut rendre l'antenne à l'heure. Et comme il est midi et demi, c'est à la rédaction de venir prendre ses quartiers dans ce studio. Un grand merci à vous, Milo Rao. La reprise, une histoire du théâtre, est à voir en ce moment au Théâtre des Amandiers à Nanterre, en région parisienne, jusqu'au 5 octobre. Et pour ceux qui nous écoutent en Belgique, L'Agneau Mystique, votre nouvelle création, est à voir en ce moment au NT Ghent, dont vous avez pris la direction. Je vais y arriver. Merci beaucoup, Milo Rao.
Merci.